Bonjour tout le monde, on s'excuse d'être un peu en retard, c'est Edmond Chan qui parle. Je voulais simplement annoncer qu'on allait commencer l'enregistrement.
Hello everyone.
Bonjour à tous, c'est Matt Ashton qui parle. Bienvenue à la réunion du groupe de travail at large sur les IDN. Il est mercredi 10 avril, il est 17h02, je suis Matt Ashton. Rappelez-vous de dire vos noms au moment de parler lent et clairement pour les interprètes. Merci. Edmond Chung, merci Matt. Je suis Edmond. Merci tout le monde de nous rejoindre. Je suis content de voir qu'on a des gens du groupe de travail, mais aussi des copains ici d'ICANN. Donc, je voulais commencer avec une sorte d'appel à titre personnel. Donc, on voudrait que vous dites vos noms et à quel groupe vous appartenez. Bonjour, je suis Lerna Galesen de ISOC Caraïbes et à large, de l'Arménie. Bonjour, Jean-Jacques Suprena, membre d'ALAC. Bien, donc, pour ceux qui sont derrière moi, ça demande encore une fois, si vous êtes prêts à participer, il y a plein de places à la table, hein, donc soyez pas timides, venez vous asseoir. S'il vous plaît. Donc, voilà, je suis Edmond Chung de ISOC Hong Kong. Et je préside aussi ce groupe de travail d'IDN d'ALAC et je suis la liaison pour ALAC. Je suis Rinali Abdelrahim, je suis membre d'ALAC, je suis vice-présidente de cette réunion, je crois. Matt Ashtiani, équipe ICANN. Dennis Jennings de l'Irlande, d'une compagnie qui s'appelle Nauts. Et j'étais un conseiller jusqu'à très peu de temps pour le programme des IDN. Andrew Sullivan, je travaille pour Dung et je n'ai aucun rôle ici. Ashmus Freitag, je participe à travers le groupe Unicode et en ce moment je suis conseiller sur les questions d'IDN pour ICANN. Chris Delam de l'Université de Londres, University College London. J'étais membre du groupe d'études de cas et aussi du projet 2.1. Pardon, je suis Samad Hussein. Je suis professeur de l'université à Pakistan. Joseph Ng de ISOC Hong Kong, vice-président de ISOC Hong Kong. Naila, membre de ICANN, des équipes ICANN. Frank Kikwaria, équipe ICANN. Si quelqu'un ici dans le public, je répète, veut se présenter, participer. Oui, allez-y. Winthrop U, ISOC Philippines. Edmond Chung, merci. On a tout le monde. Est-ce que... Bien, donc c'est bon. Bonjour, je suis Akshet. Je fais partie d'une étude. C'est bon pour l'enregistrement d'avoir plein de gens qui participent. Hein. Bien, donc j'ai envoyé en fait un ordre du jour très bref qui s'est développé grâce à Rinalia qui nous a aidés à la préparer et j'ai modifié un peu ce qu'elle a fait, je l'ai réduite. Matt, je me demande si on pourrait le voir sur l'écran. Waouh, c'est mis à jour. Et je l'ai envoyé en fait hier soir, donc merci Matt de l'avoir mis à jour si vite. Donc l'idée et de vous donner une mise à jour sur les activités que l'on organise et l'on développe à ICANN par rapport aux IDN. Et puis pour cette session particulière, Malheureusement, Hong n'est pas là et j'espérais pouvoir passer davantage de temps à parler de la chambre de compensation de marques déposées en IDN et puis de la stratégie, du document de stratégie pour le long terme des IDN. Mais j'espère que Hong sera là lorsqu'on y arrivera. Parce que Hong Xue, une des membres de notre groupe de travail, était passionnée par rapport au fait que la chambre de compensation de marques déposées ne supportait pas les IDN. Donc, je n'ai pas fait attention à la liste, en fait, et je me demande si quelqu'un a vu de documents préliminaires de la part de Hong. Donc, on n'a pas de version préliminaire, pas de documents de sa part. On n'a rien reçu. Donc, voilà l'ordre du jour. À moins que vous voulez ajouter quelque chose, on peut commencer. Donc, on a une brève mise à jour par rapport aux trois aspects principaux. Donc, on a le GIG, le groupe de travail des IDN conjoint de la CCNSO et la LAC. Et ils travaillent sur les CCTLD. Ils vont publier un document pour les commentaires publics. Je pense qu'ALAC, en général, devrait répondre à ce document. Et je co-préside aussi ce groupe de travail. Donc, je ne vais pas participer à la rédaction et au processus, mais je vous encourage à le faire. Et Rinalia va nous aider à l'achever, ou alors les gens qui sont ici aussi pourraient le faire. Hein. Mais cela n'est pas complètement prêt. Il y a eu une session lundi dernier qui expliquait les quatre recommandations que le groupe a faites. Et je vais les mentionner rapidement. La première était de faire que la chambre de compensation d'ICANN et que ICANN, en fait, travaille avec la communauté, avec les bureaux d'enregistrement sur le sujet des TLD pour l'acceptation universelle des IDN TLD. Donc, ce qu'on veut dire là-dessus est que le système d'enregistrement, par exemple pour les enregistrements des noms de serveurs ou alors pour des informations telles que les adresses e-mail, puisse supporter les IDN dans ces champs-là. Et maintenant, les registres et les bureaux d'enregistrement ne le font pas forcément. Donc, pour accepter les TLD-IDN, on devrait être prêt. Et je me sers donc de cet exemple. J'espère que les équipes ne vont pas me tuer, mais ce qui s'est passé était que pour l'un des cas, on a passé par le processus de voie rapide des CCTLD et ce système a rejeté mon adresse email .asia, mais c'est un changement qui a été fait très vite, mais ma première demande fut rejetée. Donc c'est une question qu'il faut qu'on aborde, particulièrement au sein de notre communauté. Il faut qu'on garantisse que nos systèmes fonctionnent. Donc, c'est l'une des recommandations. La suivante recommandation est qu'ICANN, en tant que plan stratégique, l'inclut comme point dans l'ordre du jour de travail de l'acceptation universelle des TLD-IDN au niveau stratégique. Et puis, les troisième et quatrième recommandations sont de demander aux équipes d'ICANN. Il y a une équipe d'ICANN sur l'acceptation des TLD. C'est le personnel d'ICANN qui forme ce groupe. Et la recommandation est de leur demander de travailler sur un ensemble de matériel de référence pour les nouveaux TLD-IDN. Parce que peut-être que les nouveaux TLD-IDN ne savent pas très bien ce qui va se passer, particulièrement les TLD IDN et les CCTLD, et les nouveaux GTLD aussi. Ils pourraient être surpris lorsque un TLD ne fonctionne pas dans certains navigateurs ou certains systèmes ou avec certains fournisseurs Internet. Donc, ce qu'on demande est que les équipes de personnel d'ICANN préparent une liste de matériel pour observer. C'est donc la troisième recommandation. Et la quatrième est un peu plus large. Jusqu'à présent, les équipes de personnel d'ICANN ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Mais la recommandation est de leur demander de travailler de façon plus proactive pour défendre l'acceptation universelle des TLD IDL. Donc voilà les quatre recommandations. Comme j'ai dit, cela sera soumis aux commentaires publics à la fin de la réunion de Pékin et on voudrait encourager le groupe à le traiter. Ayant dit cela, Rinalia, je me demande si tu veux ajouter quelque chose. Ah, génial, il y a Hong qui arrive. Donc, on va passer directement à Hong dans quelques instants. J'étais en train de t'attendre, en fait, et je retardais le problème. Donc, on a deux documents de plus. Je veux vous les expliquer avant de passer au fait que la chambre de compensation de marques déposées ne supporte pas les TLD-IDN. Je suis content d'avoir tout le monde ici pour préparer une déclaration pour soumettre à la considération d'ALAC. Il y a deux rapports qui ont été complétés. L'un est sur l'étude des expériences des utilisateurs. Et puis l'autre est... Je devrais ralentir un peu peut-être. Donc, les règles de génération d'étiquettes constituent un processus qu'ICANN a pour consolider certaines des politiques et des tableaux d'IDN et pour établir des règles dont on se servira au niveau de la racine. Donc, au niveau de la racine ou au niveau des TLD, cela diffère des déploiements préalables des IDN et des variantes IDN parce que c'est une ressource globale partagée, donc l'agrégation des différentes politiques a été requise et les règles, le document de règles de génération d'étiquettes fournissent un outil pour le faire. Et puis on a l'étude d'expérience des utilisateurs, on a considéré certains scénarios, certains cas hypothétiques où on a examiné ce qu'on devrait faire lorsque la personne veut se servir des variantes IDN et puis on va le soumettre à la considération de la gérance de premier et deuxième niveau et à la communauté aussi. Personnellement, il me semble que l'ordre est assez bon. J'ai envie de présenter une objection particulière sur l'étude d'expérience des utilisateurs. Et l'une des recommandations pourrait être donc incompatible avec le déploiement des noms de domaine chinois qui existent en ce moment avec le registre, particulièrement en Chine, Taïwan et Hong Kong. Et c'est le système dont on s'est servi récemment pour ce déploiement. Donc, on veut s'assurer que ce ne soit pas l'intention, en fait, mais on devrait de toute façon faire attention à ce point. Et c'est important pour cette communauté et pour les variantes IDN et leur bon fonctionnement pour permettre que un caractère chinois traditionnel et simplifié soit inclus dans une sorte de paquet pour l'enregistrement. Voilà, c'était le concept des variantes IDN en chinois depuis quelque temps. En outre, on devrait aussi faire attention. En fait, ça constitue la fin de la deuxième ou troisième étape du projet. La quatrième étape sera probablement présentée de façon immédiate à la fin de la réunion du Conseil de cette semaine. Si le Conseil, bien sûr, approuve cette résolution. Donc, en ce moment, il paraît que le créneau temporaire serait d'avoir le déploiement vers la moitié de l'année prochaine. On dirait que c'est un peu loin, mais c'est une situation positive de toute façon. Oui, Francisco? Merci, Edmond. C'est Francisco Arias qui prend la parole. Je voudrais préciser ce qui s'est passé lors de la session des variantes IDN. Il y a eu un peu de, disons, confusion sur si la communauté allait devoir attendre jusqu'à ce que toutes les autres communautés aient produit leur propre partie de la racine. Et ce n'est pas le cas. Par rapport à ce que dit la procédure à suivre. Donc, je vais lire l'annexe A. Ça dit qu'on peut avoir davantage de règles de génération. On va sauter directement à la partie qui nous intéresse, qui dit que le panel de direction a un an avant la fin du travail de tous les autres panels, parce qu'ils peuvent croire qu'il n'y aura pas de superposition entre les points uniques et les rangs de travail d'un panel de génération potentiel. Et puis, ça continue à spécifier les exemples. Mais cela continue tel que c'était auparavant. Il y a eu des problèmes de communication. Et ce n'est pas vraiment l'intérêt principal de la communauté. Ce qui les occupait était qu'ils ne voulaient pas modifier la racine tous les deux semaines. Mais je pense que donc, c'est aussi un point secondaire pour répondre aux nécessités de la communauté. Voilà, c'est tout. Merci, Francisco. C'est Edmond qui parle. Je pense que tant Rinalia comme moi vont manifester cela lors de la session que tu as mentionnée. Bien sûr, il y a eu des préoccupations de la communauté. Je te remercie de cette précision. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a discuté, parce que la communauté chinoise, en fait, au moins depuis Aperalo et depuis Alak aussi, on a dit que c'était une question très importante pour la communauté chinoise et qu'on voudrait que le mécanisme ne soit pas bloqué s'il y avait des problèmes qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas résolus. Et c'est encourageant, mais de toute façon, ce processus est constant. Et on semble voir de résultats positifs déjà. Et je voudrais savoir si quelqu'un a des questions ou veut commenter ce qu'on vient de discuter. Bien. On passe donc maintenant à ce que j'espère sera une discussion plus intéressante. C'est ce que Hong a dit hier lors de l'Assemblée générale de Aperalo. Donc, ce groupe de travail a essayé de préparer une déclaration. C'est une version préliminaire par rapport à cette question avec la chambre de compensation de marques déposées. C'est un composant critique dans le programme des nouveaux GTLA. Et maintenant, je me suis rendu compte et j'ai répété à plusieurs reprises que la chambre de compensation ne supportera les variantes IDN. Ça va, bien sûr, traiter et supporter les présentations IDN, mais pas les variantes. Donc, je passe la parole à Hong. Merci, Edmond. C'est Hong Shui qui parle. Je m'excuse d'être en retard. J'étais à la réunion du conseil de la CCNSO. Rappelle-toi de dire ton nom, c'est Matashani. Parle lentement aussi, s'il te plaît. Oh, oui, pardon, je suis Hong Shui. Je représente l'Alliance utilisateur des noms de domaine chinois qui fait partie de l'Alliance de l'Aperalo. Donc, je voulais parler des problématiques des variantes IDN. Ce n'est pas en réalité un problème. Le problème est que, puisque c'est une nouveauté pour ICANN, le problème, en fait, a commencé en octobre 2011. Lors de la réunion de Sénégal, il y a eu une consultation publique par rapport à au déploiement de la chambre de compensation des marques déposées. J'ai donné mon opinion dans ce forum. J'ai dit que la chambre de compensation de marques déposées devrait pouvoir supporter les variants d'IDN parce que beaucoup de marques déposées sont en fait enregistrées dans les groupes d'IDN et la chambre de compensation ne peut traiter que les marques enregistrées. Et donc, s'il y a des marques déposées dans toutes les écritures, on devrait garantir leur unicité. Donc, s'il y a une question controversée, la chambre de compensation devrait avoir les ressources pour pouvoir traiter ce problème. Et puis, ICANN a composé un groupe de systèmes duquel je faisais partie. Et on traitait le problème des variantes IDN, les marques déposées et les règles. Et on prenait compte des problèmes de variance. On n'a pas pris en compte ce que j'ai dit. Et dans le rapport final du déploiement de la chambre de compensation de marques déposées, il n'y avait pas de règles de variance correspondantes qui aient été adoptées. Donc, en septembre 2012, ALAC a publié des commentaires par rapport à la chambre de compensation. Et j'étais rédactrice de cette déclaration d'ALAC. Et sur cette déclaration, on a dit clairement, on l'a exprimé clairement, que la chambre de compensation est une bonne solution, mais qui pourrait ne pas satisfaire la nécessité d'une langue, d'une communauté ayant une langue différente. C'est une réalité, hein. Donc, ce n'est pas vraiment utile pour certaines communautés spécifiques. Mais cette déclaration n'a pas été prise en compte non plus. Donc, très récemment, on a vu qu'ICANN a publié des documents de déploiement qui s'appelaient « Chambre de compensation, les exigences des mesures de droit et de protection ». Et pour moi, c'était très préoccupant par rapport aux problématiques suivantes. D'abord, parce que parmi les exigences, la chambre de compensation de marques déposées, en fait, tous les registres de nouveaux GTLD doivent respecter les règles correspondantes de la chambre de compensation de marques déposées. Mais ces règles, comme je l'ai dit avant, n'ont pas été prises en compte. Elles ne tiennent pas compte des problèmes de variantes. Et c'est important pour une communauté comme la communauté chinoise qui écrit en caractère simplifié et en caractère traditionnel. Ce pourrait être un vrai problème. Par exemple, si un propriétaire d'une marque déposée enregistrait une marque en caractère simplifié, mais pas son équivalent en caractère traditionnel, il pourrait y avoir une marque déposée qui serait générée aussi dans deux fois, donc dans la chambre de compensation. Et donc, on a les services Sunrise dans la chambre de compensation. Et donc, cette origine, ce mot serait illisible pour les autres, à moins que ce soit dans les mêmes caractères et protégé dans la période Sunrise. Et on sait très bien quelle est la fonction des services Sunrise, c'est de protéger les marques déposées et de donner l'occasion de avoir une priorité d'enregistrement. Et ce qui nous frappe encore plus à mesure qu'on entre dans le détail du document, et qu'en fait, ils interdisent que les registres CCTLD se servent de leurs propres ressources et leurs propres fonds pour développer leur propre chambre de compensation, particulièrement pendant la période de Sunrise. Donc, on ne peut pas avoir des règles supplémentaires. On pourrait le faire à la fin de la période Sunrise, mais c'est très préoccupant. Par exemple, pour les propriétaires de marques déposées chinois, ils se servent des deux genres de caractères, les traditionnels et les simplifiés. Donc, pensez aux juridictions, par exemple. Dans une partie, si l'on simplifie cela à niveau mondial, ça ne pourra pas être fait. Si on ne l'utilise que dans une région et qu'on enregistre la marque déposée, je veux dire entre guillemets, parce que l'autre est la même marque dans les autres caractères et une tierce partie pourrait attaquer notre marque déposée. Je ne parle pas de protection ni je défends non plus les droits des marques déposées, mais je pense qu'on ne peut pas oublier et ignorer les marques déposées en caractère non ASCII. Les marques déposées sont une fonction et c'est d'identifier la source des services. Et ce serait impossible de penser à Louis Vuitton étant enregistré par deux producteurs différents. Ce serait un paradis pour les produits faux faits. Donc les utilisateurs seraient en fait très confondus. ICANN doit donc dépasser son travail actuel pour développer la protection de marques déposées. Dans la proposition aussi, ils avaient essayé d'intégrer les communautés européennes contre l'abus de marques déposées, mais c'est aussi simple que d'intégrer donc les variantes. Ça doit être simple et clair. On ne peut pas avoir 50 variations qu'on ne sait pas comment définir. Et donc, je suggère que les experts sur les IDN qui sont ici dans cette communauté considèrent ce problème sérieux. Je ne pense pas que ce soit exclusif à la communauté chinoise. Il y a une autre communauté qui a aussi des variantes telles que l'arabe, le cyrillique, l'urdu, et ça les concerne aussi. Mais le problème n'est pas aussi sérieux qu'en chinois. De toute façon, c'est pertinent pour eux, c'est important. Voilà. Je répondrai aux questions. Merci, Hong. C'est Edmund Chung qui parle. J'ai Jean-Jacques et puis Francisco. Jean-Jacques.
Thank you.
Merci, Edmond. C'est Jean-Jacques Sobrana. J'ai une question à vous poser. Je suis très préoccupée par ce que Hong vient de dire. Je le savais, mais c'est la première fois qu'on a l'occasion de le dire en public. Ma question est la suivante. Est-ce que la difficulté que vous avez mentionnée, Hong, au niveau de est-elle au niveau des politiques explicites, implicites, quelque part dans ICANN, ou est-ce que c'est un problème des équipes d'ICANN? Si c'est un problème des équipes d'ICANN, il nous faut demander une réponse de la part du président directeur général pour que les équipes décident dans ce domaine et qu'elles incluent les personnes appropriées avec des capacités linguistiques dans les langues concernées. Si ce n'est pas ce problème-là, si c'est autre chose, il faudrait le savoir. En tout cas, j'ai suivi, peut-être pas assez dans le détail, ces difficultés et il me semble que nous devons séparer les problèmes politiques et les problèmes de mise en œuvre. Je voudrais savoir à quel niveau la principale difficulté se trouve. Bien, c'est une très bonne question. Avant de continuer, Edmund qui répond. Bien, avant de continuer, je voudrais éclaircir. Vous pensez que c'est une question qu'on doit poser, c'est ça l'éclaircissement que je voudrais qu'on ait. Et Jean-Jacques Subrandin reprend. Je voudrais dire la chose suivante. Ou bien, on a une réponse rapide. Le problème est la mise en œuvre parce qu'il y a une équipe qui, ils sont tous du Canada ou de la France, aucun d'entre eux n'a une idée de ce type de langue et de caractère. Et donc, à ce moment-là, on va demander à notre PDG de résoudre ce problème. Ou bien, si ce n'est pas un problème d'organisation ou d'équipe, c'est une question de politique, parce que ça n'a pas été dit de manière assez explicite que pour rendre l'IDN vraiment opérationnel, on a besoin de que ces politiques soient clairement stipulées. Je ne veux pas que les choses soient de nouveau freinées pendant des mois et des années, et pour la raison et parce qu'il n'y a pas de clarté, qu'on ne sait pas où se trouve le problème. Hein? Oui, je comprends. Francisco, c'est là-dessus ce que vous allez dire. C'est là-dessus ce que vous allez... Bien. Donc, Hong veut répondre. Je vais vous laisser répondre d'abord. Ensuite, on a une queue. et à partir de là jusque là-bas. Merci Edmond, c'est Francisco Arias et équipe technique d'ICANN. Je suis donc engagée dans ce domaine sur la question du centre des marques et je voulais juste éclaircir une série de points. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles il n'y a pas de variance dans le centre de marque, c'est dans le guide concernant les spécifications sur le centre de marque. Il est dit clairement que ce qui peut être présenté au centre des marques, c'est quelque chose qui correspond exactement ou pas. Mais il faut avoir un enregistrement de marque commerciale d'abord. Ensuite, deuxième point, je voudrais préciser quelque chose que vous avez dit, Hong, à propos des variantes. Par exemple, vous n'avez que le centre de marque ou une version simplifiée de la marque et vous devez enregistrer l'autre version dans le centre de marque. Vous dites que la variante ne sera pas protégée. Je pense que ça va dépendre de la politique d'enregistrement du registre. Et je pense que si le registre offre un enregistrement en espagnol, il y aura une politique de variante qui, à ce moment-là, qui protégera cette variante. L'autre chose que je voulais dire, c'est que ici, il y a un problème, une difficulté potentielle qui apparaît sur les variances dans le centre de marque. Je vous dirais qu'on aura besoin d'un LGR pour cela. C'est plus ou moins la même chose. Et la troisième chose, oui, si vous voulez des variances dans le centre de marque, si c'est quelque chose qui est partagé entre les utilisateurs du monde entier, vous aurez probablement besoin d'un TNSGR. Excusez-moi. Oui, oui. Je travaille trop sur ce sujet. Donc, je dirais que le LGR est une table IDN, un tableau IDN. Ce sera peut-être plus connu. C'est une liste de caractères et leurs variances respectives. On en a besoin pour trouver, pour le centre de marque en a besoin ou les registres en ont besoin. L'autre chose, je n'essaye pas de résoudre le problème ici. Ce que je suggérais, c'est que demain, il y a une session sur le centre de marque et c'est peut-être le bon endroit pour présenter ce type de problème. Merci. Est-ce que vous voulez me permettre de répondre rapidement ici? Plusieurs choses. Edmund Chung. Que ça corresponde exactement, je comprends cela, mais les lettres majuscules et les lettres minuscules, par exemple, sont autorisées. Et donc, nous ne parlons pas de la même chose. L'autre partie, Sunrise, d'accord, cela va être récupéré par le registre, mais des plaintes auprès du centre de marque, non. En ce qui concerne le LGR, c'est incorrect. Les variantes IDN ont besoin d'être le tableau de politique de registre. On parle du deuxième niveau d'enregistrement parce que les marques commerciales sont enregistrées au deuxième niveau. Donc, ce sont des différences très importantes par rapport à ce que vous avez dit. Si je peux vous répondre rapidement, Francisco Arias, et c'est une autre façon de faire. Je pense que c'est plus compliqué si vous voulez que le centre de marque soutienne les tableaux de ces deux registres. Mais c'est une autre façon de faire. Vous avez raison. Ah, j'ai oublié l'autre point. Oui, si on dit s'il y a une plainte, si quelqu'un envoie une variante pour un enregistrement, le centre de marque, c'est Edmond qui prend la parole, excusez-moi. C'est Edmond de nouveau. Je vais laisser Hong parler et ensuite je reprendrai la parole. bien, merci. C'est Hong Chen. Il y a trois réponses à ce type de commentaires de Francisco. Et Francisco mentionne le fait que le titulaire de la marque commerciale ne voudra pas soumettre une version de caractère traditionnel de marque commerciale au centre de marque. On sait que la conception d'un centre de marque est entourée et concerne l'enregistrement des marques. On a besoin d'un enregistrement de marque d'abord pour pouvoir le soumettre au centre de compensation. Donc, cela est très clair. Les titulaires de marque, hein, on peut avoir une version d'une marque, d'un nom de marque, dans une version de chinoise, ils ne vont pas se prendre le travail d'enregistrer deux versions. C'est trop compliqué pour les lois de marque commerciale. On n'a pas besoin d'enregistrer toutes ces différentes versions. Hein. Avec une version, ça suffit. On soumet cela au centre de marque et on n'a pas besoin de soumettre une autre version. Sinon, cette autre version ne sera pas enregistrée. Et pendant la période de Sendrail, ce sera dommage, hein, pour correspondre dans la période de marque commerciale. Ensuite, vous avez raison, probablement ce problème peut être réglé au niveau du TLD. Et pourquoi pas par une politique d'enregistrement comme c'est NIC qui font les choses à travers une politique d'enregistrement. Mais regardez ce nouveau document. Il est fantastique. Je sais que je ne parle pas avec un groupe d'avocats, mais regardez les dispositions. Article 2.4.3. Si l'opérateur de registre doit implémenter des variantes de racines de domaine qui doivent être inscrits d'abord auprès de la période Sunrise. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Francisco reprend la parole. Oui, si c'est une question de situation, on peut réserver pour l'utilisateur. Le registre peut le faire et peut empêcher quelqu'un d'autre d'avoir cela. C'est ce que je veux dire. S'ils le font, l'enregistrement devra faire quelque chose à propos du chinois. Je pense... Francisco, j'apprécie, oui, votre explication. C'est Hong Xue de nouveau. J'apprécie votre explication. Le problème, c'est que si on n'a pas une interdiction, si on n'a pas cette interdiction, le registre devra faire la correspondance dans la période Sunrise. Je ne comprends pas pourquoi ici, il s'agit d'une question d'ajouter ou de restreindre. C'est ajouter ici le terme. Francisco, de nouveau. Je ne veux pas, je ne peux pas parler de la partie, de cette partie de la disposition. Ce n'est pas le domaine que je connais. Moi, je m'occupe de la partie technique. Et la raison de cette interdiction, c'est une question de langue. Pour enregistrer quelque chose auprès du centre de marque, vous avez besoin de cette correspondance claire. Je comprends ce que vous dites. Ils aimeraient avoir ces variantes et pour cela... Je pense que le bon forum est la session de demain sur le centre de marque. Vous pourrez présenter ce problème. Et là, nous essayons seulement de donner une échelle, une idée du problème dont nous parlons. Nous essayons pas de résoudre ces problèmes. Excusez-moi, c'est Hong Shu de nouveau. Ma réponse est vers le commentaire de Jean-Jacques. Je pense que c'est important. Avant de parler des problèmes, de savoir si c'est un problème de politique ou de mise en œuvre, on peut se demander si on essaye de centraliser les activités du centre de marche pour voir si on doit trouver une solution à ce problème. Dans la déclaration concernant les centres de marque délivrés par ALAC, on pense que ICANN doit soutenir les questions qui sont basées sur la communauté, les services de centres de marque basés sur la communauté, parce que les IDN et la communauté ont des besoins spéciaux et des exigences. Donc, il faut vraiment que ces services répondent à cela, même si ce n'est pas le problème seulement des variants, s'il y a d'autres vérifications. d'autres authentifications qui sont nécessaires, qui doivent être faites au niveau de la communauté. Donc, je suggère que ICANN pense un petit peu à une alternative, à une solution alternative. Merci. Edmond reprend la parole. Je vais reprendre la queue des personnes qui voulaient prendre la parole. En réponse à ce que disait Francisco, nous allons participer demain à cette session. Mais ce groupe de travail essaye de développer une déclaration de la part d'ALAC et donc ou d'élaborer donc des points et contenus dans cette déclaration d'ALAC. Bien. Donc j'ai plusieurs personnes. Donc Matt Ashtiani, d'abord, nous avons une question de Aaron qui demande qu'est-ce qui a été fait pour protéger les droits des 3000 registrants qui ont un IDN existant.com. Hein, et donc, à moins que ce soit traité correctement, ça va donner lieu à beaucoup de confusion. Et il y a un exemple ici avec donc, les caractères cyrilliques que je ne peux pas vous répéter. Merci beaucoup. C'est Edmond qui reprend la parole. C'est très intéressant. C'est une question très intéressante, sans aucun doute. Et je pense que ce type de problème, ALAC et AtLarge devront contrôler cela. Ce sont vraiment les problèmes dont nous parlons ici. Et si vous voulez, on va le laisser de côté. Quand on aura une position générale, on reviendra sur ce problème. Hein, pour voir, parce que pour le moment, ce n'est pas la partie, ça ne correspond pas à la partie de la, du centre des marques. Denise Jenny. À propos de la question du centre de marque, je pense que c'est très intéressant. Et il y a d'autres questions concernant la synchronisation qu'il peut avoir entre les règles concernant les variances sur la génération d'étiquettes et les IGR et les règles pour les variances dans la chambre de compensation de marque. Ce n'est pas très clair pour moi tout ça, mais je voudrais souligner le fait que c'est au deuxième niveau. Et je voudrais souligner le fait que si différents registres ont différentes règles au deuxième niveau, les règles de génération d'étiquettes, par exemple, ça va donner lieu à une complication pour les marques commerciales et ça va donner lieu à des confusions pour les utilisateurs parce que les règles vont être différentes d'un TLD à l'autre. Donc, je voulais mettre l'accent sur la complexité qui surgit ici. Il serait peut-être approprié pour la communauté de trouver une convention concernant ces règles au deuxième niveau et des règles qui seraient adoptées volontairement pour éviter ce type de confusion entre les utilisateurs. Je propose quelques possibilités. Merci, Denise. Une réponse rapide à cela. D'abord, la Chambre des marques, parce que on parle ici de l'enregistrement au deuxième niveau, cette Chambre des marques doit mettre en place ou tenir compte de la politique du registre. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne parle pas du premier niveau. Donc, en termes de variance d'IDN, il va falloir mettre en œuvre les politiques du registre, non pas du LGR. En tout cas, c'est mon avis. Notamment, en ce qui concerne le processus de plainte pour les marques commerciales. Je n'ai peut-être pas vu ça, mais il me semble que pour le processus de plainte pour les marques commerciales, lorsqu'il y a une troisième partie qui essaye d'enregistrer un nom particulier et le registre, d'après ce que j'ai compris, va demander à la chambre de marque si cela va entraîner un avertissement, une plainte. Ce processus auprès de la chambre de marque ne soutient pas le processus de variante de ce registre de TLD en particulier. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et nous connaissons ce problème déjà depuis un certain temps et c'est pour cela qu'il a été mentionné ici. Donc, il faut régler la question des variances IDN. Mais est-ce que vous voulez reprendre la parole, Denise, de nouveau? Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une série de règles conventionnelles au deuxième niveau pour tous les TLD dans un système particulier d'écriture, il me semble. Je ne suis pas un expert, j'ai seulement Je réfléchis, c'est tout. Edmond, c'est un point de vue très intéressant, une suggestion très intéressante. Et personnellement, je suis d'accord avec ça. Si on regarde l'expérience de la communauté chinoise, c'est exactement ce qu'on essaye de proposer, que tout le monde fasse cela. Tout le monde devrait le faire. Et si le registre ne fait pas la même chose, il y a des raisons pour ICANN de se préoccuper là-dessus. C'est justement, Denis et moi, nous avons parlé de la raison pour laquelle si un registre chinois d'Irlande et un registre d'Irlande font des choses différentes, pourquoi c'est un problème? Et c'est pour cette raison, c'est la raison pour laquelle on continue à insister pour dire qu'il faudrait essayer de régler ce problème, justement. Edmond, puis Joseph, et puis je vous redonne la parole, c'est bon? Alors, d'abord, on va donner la parole aux personnes qui sont dans la queue. Edmond, Joseph, Hong, et je vais essayer de ne pas vous interrompre. Je vous le promets. Admus Fred, d'abord, je voudrais éclaircir quelques confusions terminologiques sur l'implémentation des variances. La belle abréviation LGR veut dire Label Generation Rules, règles de génération d'étiquettes. C'est un aspect des variances qui est tout à fait générique et qui est en fonction du niveau auquel il correspond. La racine LGR sera celle de haut. Donc, on peut avoir des LGR de deuxième niveau. Lorsqu'on a un LGR, ça ne veut pas dire qu'il correspond à la racine. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est sur le point de trouver une solution pour l'LGR dans la racine. Et dans ce processus, il y a aussi un effort à réaliser pour trouver un outil unifié ou standardisé pour mettre en place ces règles, pour trouver s'il y a quelque chose qui est une variante d'autre chose. Ces formats, pour qu'ils soient suffisamment, pour qu'ils soient corrects et qu'ils puissent être chargés dans les règles IDN, dans les tableaux IDN des TLD qui existent actuellement. Donc, sur le côté technique, on peut regarder la possibilité d'avoir une série d'outils qui nous donne la possibilité de saisir les informations qui existent déjà pour mettre en œuvre une solution technologique et identifier des variantes, même si elles sont légèrement dissimilaires, dissemblables au niveau des LGR. Ça nous donnerait une autre vision du même problème. Donc, cet ensemble d'outils peut rentrer dans ou répondre comme solution à des problèmes en particulier dans le sens que ce n'est pas nécessairement ou ce n'est pas désirable pour une institution comme le centre de marque d'avoir une expertise indépendante dans le domaine des langues, une expertise linguistique pour encourager et pour publier l'expertise linguistique qui existe sur les variantes IDN et les tableaux IDN qui existent pour les TLD actuellement. Donc, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, c'est que je suis d'accord avec Denis dans le sens que à cause de tous ces problèmes secondaires et tertiaires qui se trouvent derrière les variantes de registre et pour l'utilisation aussi de la protection des marques, on a une pression qui apparaît ici sur les opérateurs de TLD pour nous proposer une série de règles compatibles. Et je ne sais pas comment on peut confirmer cela. C'est clair que ça ne peut pas être obligatoire, mais je pense qu'on va dans la bonne direction pour avoir un processus d'adoption volontaire de règles similaires. Je pense que ça serait un bénéfice pour l'utilisateur. Hein. Merci. Joseph, vous avez la parole. Joseph Yi, je voudrais demander, lorsqu'un registrant essaye de faire une fraude, est-ce que le registre doit vérifier cette possibilité de fraude ou est-ce qu'il faut rentrer dans le système d'enregistrement? Parce qu'on peut le revérifier. La deuxième question, dans la vie réelle, dans le centre de marque, comme cela arrivait auparavant, certaines marques, certains candidats de marque, et on a du mal à savoir si c'est similaire ou pas avant de créer le registre. Parce que j'ai des doutes que dans le monde réel, on puisse capter tout cela dans le système. Et c'est pour cela qu'est fait l'UNDRP. Merci, Joseph Hong. C'est mon tour ou je dois répondre à cette question tout de suite? Les deux. Bien. D'abord, je voudrais en revenir à ce que Denis a dit. Je pense que c'est très bien et je pense que je suggère au niveau du GNSO que tous les TLD IDN et avec des problèmes de variance s'engagent à adopter. Et le tableau de variance est pertinent. Si ce tableau est vraiment basé sur un consensus concernant la communauté linguistique, on revient à la question géographique des opérateurs de TLD. C'est VeriSign, mais si on a un TLD chinois, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait analyser. Le PIC est vraiment un mécanisme qui peut fonctionner et qui est sujet à la conformité. Revenons maintenant à la question qui vient d'être posée. Oui, je serais ravie de répondre aux questions légales et il est clair que nous avons un système de résolution de conflits qui est là pour résoudre les conflits après l'enregistrement. Mais nous devons être conscients du fait que le système de ICANN est très compliqué et il assure que la résolution de conflits soit une solution qui arrive en deuxième lieu, mais qui soit aussi une mesure de prévention. Donc ici, je parle non pas des opportunités de retirer au titulaire de marque l'utilisation de l'UDRP ou tout autre système de résolution de conflits. Ce que je dis ici est ce qu'il faut savoir s'ils sont éligibles pour l'enregistrement Sunrise. Et avant de conclure ma question, vous aviez une autre question. Oui, c'est Edmond qui parle. Je voudrais répondre un petit peu ici et vous rendre la parole ensuite, Joseph. Vous avez demandé une série de choses. La première, et vous avez dit que je ne suis pas un avocat, mais d'après ce que j'ai compris, la marque commerciale fonctionne par catégorie. Il peut y avoir un même nom qui va... C'est un système très différent. Et donc, le défi ici du processus, c'est qu'on peut avoir quelque chose qui est présenté au commentaire public. J'utilise cette terminologie ici, hein, et que quelqu'un objecte, et présente une objection. Donc, c'est très différent de ce dont nous parlons pour le Sunrise et pour le processus de plainte auprès des marques commerciales. Ici, ce que vous pouvez présenter au Sunrise et ce qu'une tierce partie peut faire au niveau d'un enregistrement général, ici, nous parlons de ces deux processus. Et ces deux processus requièrent la mise en œuvre d'une variance IDN. Le Sunrise est moins une préoccupation, mais ce serait mieux quand même. Mais je crois que Francisco a mentionné le fait qu'il était possible que le registre puisse le saisir, mais du côté de la plainte de la marque commerciale. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais Joseph, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Joseph Yi, j'entends votre réponse, mais ce que vous dites semble suggérer que même les bureaux de marque dans la vie réelle On attend que le bureau de compensation des marques puisse le saisir. Ça m'a l'air un peu impossible. Edmond, est-ce que je peux répondre? Bien, c'est Edmond qui reprend la parole. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que la suggestion, c'est que les variantes IDN sont une mise en œuvre d'enregistrement de domaine pour une marque lorsque on remet en question, lorsque quelqu'un enfreint une marque. Si on a une version simplifiée, on peut aller devant la cour, devant le tribunal, décider s'il y a une violation de la marque de l'autre personne. C'est très différent d'essayer d'enregistrer un domaine et lorsqu'on se présente à l'enregistrement de Sunrise. Donc, je pense que cette distinction doit être faite. Donc, j'ai Francisco et ensuite j'ai Andrew. Francisco, vous avez la parole. Alors, Francisco prend la parole. Juste une réponse à propos de ce que vous dites à propos des prints. Je pense que c'est le même cas. Si c'est le cas, ils vont être attrapés parce que lorsqu'on essaye d'enregistrer une version simplifiée, on dit qu'on a la possibilité de faire une plainte. Le registre va essayer d'enregistrer les deux, donc il doit vous montrer la plainte pour le nom traditionnel. Ça dépend de la politique du registre, mais c'est la même plainte. Oui, Edmond reprend. Oui, ça dépend de la politique du registre, mais le système du registre ne peut pas le faire. Voyons, mettons que quelqu'un vienne avec un enregistrement qui est une variante et pas la variante préférée. Hein. Donc, vous avez inventé 4 ou 6 chaînes de variantes. Et ensuite, vous demandez au centre de marque. Mais à mon avis, c'est très cher pour mon enregistrement. À mon avis, ça ne marche pas pour les registres. La chambre des marques, le centre des marques, ça doit être implémenté auprès du centre de marque, le registre. Lorsque nous recevons lorsque l'enregistrement arrive, je le passe à la chambre au centre de marque. Le centre de marque peut me dire, est-ce que cela correspond aux marques que je dois et pour lesquelles j'ai une plainte et pour lesquelles je dois présenter une plainte? C'est quelque chose qui est beaucoup plus logique que le fait qu'un registre essaye de faire 5 transactions auprès de la chambre du centre de marque pour essayer de comprendre. Mais bon, de nouveau, je dirais qu'on rentre dans des détails et c'est demain qu'on devrait rentrer dans ce type de détails lors de la session sur le centre de marque. Et ensuite, chez Andrew. Francisco, rapidement. Et je pense que c'est comme ça que ça devrait marcher. Ça, c'est la règle telle qu'elle existe actuellement. Si un registre est assigné un nom, il doit d'abord vérifier qu'il n'y ait pas de plainte. C'est comme ça que ça marche. C'est Edmond qui reprend la parole. Je pense que demain, si vous voulez, on n'aura pas le temps non plus. Mais, je vais prendre le temps maintenant. Le problème est qu'il y a des noms qui... Ce que vous dites, vous me dites que... Si vous me dites en tant que registre, mon budget est faux. Donc, si je veux mettre en œuvre des variantes d'IDN, vous me dites que vous n'avez pas... Je dois envoyer une centaine de demandes au centre des marques qui va me prendre chaque fois tant d'argent. Non, consulter le centre des marques ne coûte rien. C'est gratuit. Vous êtes sûr? Il faudrait regarder le tableau des frais correspondant aux frais dans ce sens-là. Merci. Mon vice-président me gronde. J'ai Andrew et j'ai Jean-Jacques ensuite. Andrew Sullivan, juste une question ou une observation. Il me semble que si vous avez un problème de variance au moment de l'enregistrement, on peut, en termes de quelqu'un qui risque de perdre son enregistrement, il ne risque pas d'y avoir de problème, je pense. Mais il me semble que les gens agissent comme si c'était une chose dans, à sens unique, c'est-à-dire le centre de marque fonctionne ou pas. Je pense pas qu'on veuille en arriver là, mais pour des cas compliqués, on en arrive là. Je pense que c'était une partie de, en partie ce que Joseph voulait dire. Ils ne sont pas infaillibles. Ce centre de marque n'est pas infaillible. Merci, Jean-Jacques. Merci. Je voudrais en revenir à ce qui a été dit par l'expert. C'était une remarque très intéressante. Et je voudrais faire poser deux questions. Quel est le chronogramme pour ce système de liste? Et quand est-ce qu'il va être produit? Quand est-ce qu'il va être testé? Quand est-ce qu'il va devenir opérationnel? Et quand est-ce qu'il va être disponible? Ensuite, j'ai une autre question.
Asmus, oui. C'est un peu ma supposition. Je n'ai pas de réponse claire là-dessus. J'essaie de deviner. On espère avoir un LGR utile, disponible d'ici un an. Et dans ce processus, on croirait qu'il y aurait des outils de format qu'on pourrait vous donner. Donc, c'était quelque chose qui a été déclenché parce que Francisco a dit, mais bon, oui, suivante question. Oui, merci, c'est Jean-Jacques Suivrena, merci Asmus. Donc, j'ai posé cette question il y a 15 minutes parce que je savais qu'il y avait une solution définitive à venir, mais je savais que ça prendrait plus de temps que ce qu'Asmus disait. Donc, en fait, cela correspond au fait que dans le calendrier commercial et technique, d'une part, et puis que c'est différent pour le calendrier technique. Et donc, les personnes qui doivent enregistrer les IDN ont des limites de temps beaucoup plus courtes. Et donc, peut-être qu'il y aurait un problème de personnel pour traiter les demandes, parce que ça va prendre une demande minimale de capacité linguistique, j'imagine, pendant qu'on attend jusqu'à ce que la solution technique arrive. Et c'est une solution qui ne demande pas de, requiert pas de, d'expérience technique. Donc, pendant qu'on attend l'arrivée et le déploiement de la solution technique, est-ce qu'on devrait demander à voir et est-ce qu'on pourrait recevoir la réponse de la part des équipes? Asmus, oui, encore Asmus. J'étais en train de penser à ce que Francisco a dit. Je voulais le compléter, en fait. Ce que cela a déclenché et le fait que les requêtes multiples ne sont pas un facteur de prix. J'ai toujours l'opinion ou le point de vue que si on cherche une correspondance dans le noyau, on n'aura pas donc, de réponse erronée, mais une bonne réponse. On essaie de donc partager les outils, mais les compagnies qui s'occupent de la variance aujourd'hui devraient avoir une façon de l'identifier et de connaître ses propres politiques. Il n'y a pas de perte de communication dans le processus. Ils se comprennent. Au moins, on espère que ce sera le cas. Et si le processus que Francisco a décrit peut être expliqué, on reçoit une lettre d'enregistrement, le registre devrait s'occuper de ses propres politiques. Et Edmond sourit à chaque fois lorsque je dis cela, parce que ce n'est pas possible apparemment pour le registre. Je ne vais pas le dire, c'est Edmond qui va l'expliquer dans deux secondes. Mais en fait, donc, le bénéfice que ça aurait, c'est vrai qu'on aurait un grand niveau de distribution dans le système sans exiger la connaissance de toutes les politiques des registres, qui est le problème en fait auquel on doit faire face lorsqu'on pense à un dépôt central. Donc, ça devrait être plus solide. Et si c'était plus solide, donc, entre la centaine de variantes, il y aura bien sûr une qui sera le correspondant exact. Sinon, on n'aura pas de superposition avec le terme exact. Et donc, il y a un des termes qui est protégé. Et puis, c'est fini à la fin de cela. Mais le problème qu'on pourrait avoir, est que le registre opéré par le TLD n'a pas suffisamment de variantes. Donc ça n'inclut pas la marque déposée exacte dans la variante. C'est ça, je pense, que Joseph essaie d'expliquer. Parce que le système ne fonctionne pas, on a des problèmes. Donc, si on essaie de développer un système central, on pourrait avoir d'autres problèmes. Et puis, bien sûr, même dans un système distribué, on pourrait voir qu'un système qui gravite pour arriver à d'autres solutions, on pourrait trouver plusieurs solutions semblables pour un même problème. Merci à Asmus et encore Edmond. On va faire une petite réponse courte et puis Jean-Jacques encore. J'ai un commentaire à faire. On m'a dit qu'il y a le gala ce soir. Il faut qu'on y soit à 18h30 pour prendre le bus. Sinon, on va rater le gala. Il va donc falloir qu'on finisse cette réunion vers 18h15. Donc voilà, il faut qu'on finisse cette discussion, mais il nous reste une dizaine de minutes, un peu moins, 8 minutes. Donc, la question est pourquoi les chaînes multiples. En fait, si vous revenez à la discussion de la chambre de compensation du point de vue des fournisseurs de technologie, il y a aussi la question de SLA. Et lorsque vous vérifiez un nom de domaine que vous voulez créer, il faut répondre au bureau d'enregistrement. Et dans la moitié du processus, il faut aussi le faire. Donc, en tout cas, on a une transaction qui est déjà un problème assez important pour beaucoup de problèmes. Et je voudrais savoir si vous voulez vraiment entrer dans le détail de cette question. Je ne voudrais pas, en fait, le reformuler. Je voudrais qu'on revienne au fait de la déclaration, si on veut ou pas rédiger une déclaration. Et par rapport à ce que Jean-Jacques disait, je pense que cela est lié non seulement à cette question en particulier, mais aussi à la question des variantes telles des IDN en général. Donc voilà, c'est ce que je voulais qu'on discute dans le point numéro 3. Je voulais donc conclure cette discussion et passer la parole à Hong, si elle voulait parler. Et puis, je voudrais avoir une idée. Si l'on conclut à partir de cette discussion, quelles seraient les prochaines étapes à votre avis et si, Hong, tu serais volontaire pour rédiger ce document, si on le ferait. Bien, Hong Shui. J'ai quelques remarques finales. On a 5 minutes d'y être, Jiang, ok, je suis Hong Shui. Au début, lorsqu'ICANN a développé cette chambre de compensation en tant que mesure de protection, je me suis opposée. Mais si ICANN n'intervenait pas dans la question des marques déposées, ce serait génial. Mais en fait, ICANN s'engage de plus en plus à la protection de marques déposées et ça devient de plus en plus protectif, en fait. Et maintenant qu'on est ici, je voudrais savoir si toutes les marques déposées devraient recevoir le même traitement indépendamment des caractères. Et récemment, ICANN a publié la proposition Strawman. Et je voudrais. Il y a eu des Asiatiques qui ont fait leurs remarques. Et ce n'était pas seulement pour le GNT, c'était aussi pour le GNTTP ou pour d'autres variations qui pourraient être intégrées dans la chambre de compensation. Donc c'est un succès ou un événement remarquable. Pour nous, ça devrait être beaucoup plus protectif. Donc pourquoi ne va-t-on pas protéger les marques déposées chinoises en les différents caractères? Donc voilà ce que je veux dire par rapport au traitement égalitaire des marques. Bien sûr que si ICANN voulait annuler la protection de toutes les marques déposées, on irait tous passer par des procès, hein, mais ce ne serait pas un problème à discuter ici, peut-être. Et puis, j'ai rédigé une déclaration pour le groupe de travail et je serai contente de vous l'envoyer sur la liste de diffusion pour que vous la révisez. On a bien traité ces points principaux ici et je voudrais qu'on les discute avec la communauté. Merci, Hong. Encore Edmond. Vu que l'on va devoir raccourcir la session, je voudrais te remercier de te présenter comme volontaire. Je suppose qu'on le discutera sur la liste de diffusion et on devrait organiser une téléconférence avant de remettre ce document à l'AC. Benalia, merci, c'est Benalia Abdulrahim pour le procès verbal. Je pense que l'idée originale était de créer une déclaration qui soit votée par l'acte demain, mais il est clair qu'il y a des complications pour ce faire. Mais le problème de la chambre de compensation qui ne va pas supporter les variantes a été abordé déjà par des personnes dans le regroupement des commerciaux. Donc, on pourrait peut-être l'intégrer, mais pour ce qui est de la solution, ça va nous prendre davantage de temps parce que j'ai entendu de bonnes propositions ici à la table et ça va nous prendre du temps d'évaluer quelles sont de bonnes options pour suggérer qu'elles sont viables, etc. Edmond, encore. Je voulais comprendre ce que tu voulais dire. Donc, il y a une autre déclaration qui a été préparée et cela pourrait s'intégrer à cette déclaration. Brinalia, encore. Je pense qu'il y a plusieurs déclarations qui vont être proposées à l'AC pour que l'AC le considère demain, pour qu'il vote. Je vais parler avec Olivier Crépin-Leblanc pour voir si on a une possibilité d'ajouter ce point des chambres de compensation de marques déposées qui ne supportent pas les variantes IDN pour qu'on s'occupe de ce problème à un moment postérieur. Edmond encore. Merci, Brinalia. C'est plus clair maintenant. Et donc, Hong, tu vas envoyer cette déclaration sur la liste de diffusion. Hong dit, dans ce cas-là, on devrait peut-être le modifier et ce serait à Rinalia de s'occuper du niveau d'ALAC et ça ne va pas être adopté par ALAC demain, non? Ce ne serait pas le cas, donc ce ne serait qu'une phrase. Qu'est-ce qu'ALAC va voter? Edmond? Oui, Rinalia, vas-y. Merci, c'est Rinalia. Je répète donc, il y a de différents niveaux et aspects pour cette question. D'une part, la chambre de compensation ne supporte pas les variantes IDN, puis on devrait voir ce qu'on peut faire par rapport à cela et il faudrait voir combien de temps il nous faut pour pouvoir aborder ce problème. Et si on voudrait voir combien de travail on peut faire dessus, je serais contente d'en parler à l'AC demain. Andy, je vais l'envoyer ce soir sur la liste de diffusion. Lisez-le, s'il vous plaît. Ah, on a besoin d'avoir le consensus du groupe de travail d'abord avant de le soumettre à l'AC. Edmond. Bien, donc on a un dernier mot. Merci, je suis Oksana Prihotko. J'ai une proposition courte. C'était une très bonne expérience de travailler avec les différents groupes de travail qui s'occupait des différentes langues dans le projet des variantes IDN. Je voudrais savoir si ce serait possible de répéter cette expérience et de créer, par exemple, d'autres groupes de travail lors de l'étape de mise en œuvre. Merci. Merci, c'est Edmond qui parle. Je pense que ta question doit porter sur le processus des règles de génération d'étiquettes. Et je ne voudrais pas répondre, mais c'est bien notre intention. De ne pas les séparer en plusieurs groupes. Asmus qui prend la parole. En fait, on a parlé des panels de génération. Ça dépendra de l'écriture. Et dès que ce sera adopté, ce sera mieux, hein, parce qu'on en a besoin de façon urgente. Bien, c'est Edmond qui prend la parole, à moins qu'il y ait d'autres questions. On n'a pas pu arriver jusqu'à la fin de notre ordre du jour, mais on le continuera en ligne. Merci tous d'être venus. Il faut qu'on se dépêche pour aller prendre le bus, sinon on va rater le gala.